Salut.
Salut,
bonjour,
salut.
Bonjour, salut, salut.
Et bonjour.
Comment ça va?
On est à nouveau en direct sur 39.9 FM.
Il est midi 30.
Il est midi 30.
Il est midi 32.
Et comme nous sommes en direct, vous pouvez nous appeler au 07 53 15 33 68. Et aussi nous envoyer un mail pour plus tard, 39-9@reseup.net.
Et on commence tout de suite par une petite chanson de Moustaki.
Ô muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili, la guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse de meu fado, ô minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. De bouche à oreille s'envole ta chanson, car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui...
Et bonjour. Et voilà, on est le 21 avril. Et vous venez d'écouter une chanson qui m'a induit en erreur depuis que je la connais, qui me faisait penser, alors j'avais peut-être mal écouté les paroles, mais qui me faisait penser que la révolution des œillets au Portugal en 1974 avait commencé le 21 avril, à cause de cette chanson-là de Moustaki, que je trouve très belle par ailleurs. La révolution des œillets, c'était cette révolution pacifique qui a mis fin à la dictature salazariste en avril 1974 et qui n'a pas débuté le 21 avril, mais le 25 avril. Mais alors pourquoi Moustaki cite le 21 avril? En fait, il fait référence au 21 avril 1967, donc les cicatrices du 21 avril, qui est la date du coup d'état des colonels en Grèce, qui a marqué du coup 8 années qui ont suivi, 8 années de dictature des colonels en Grèce. Bon, bah alors du coup c'est bête parce qu'on est le 21 et pas le 25, mais je voulais parler de la révolution des œillets. Bah alors j'ai cherché qu'est-ce qui a pu se passer le 21 avril à d'autres années. Par exemple, le 21 avril 1944, c'est le droit de vote qui est accordé aux femmes en France. Le 21 avril 1961, c'est aussi la date du putsch des généraux à Alger, du coup, qui avaient senti un peu le vent tourner vers l'Algérie indépendante et qui ont essayé de faire un putsch à partir d'Alger et dans l'Algérie et le Sahara et qui ont échoué. Le 21 avril 2002, c'est aussi une date qui a désespéré pas mal d'entre nous de un jour continuer à voter quand ils ont vu Le Pen arriver au coude à coude avec, enfin, arriver au premier tour des élections présidentielles en face de Chirac. Mais pour revenir à la révolution des œillets qui était le 25, du coup avril 74, j'ai trouvé deux anecdotes. La première, c'est qu'en fait, elle a été annoncée discrètement par la diffusion à la radio, et comme on est à la radio, je trouvais ça intéressant de le dire, la diffusion à la radio de la chanson Grandola Villa Morena, écrite par Zeca Alfonso. Et aussi un autre mot d'ordre qui a circulé à la radio ce jour-là, c'est que les capitaines d'Avril, donc qui ont occupé le Portugal et Lisbonne, ont dit à la population de surtout rester chez elle. Et ça m'a fait penser un peu au confinement actuel. En fait, du coup, ils ont dit restez chez vous pour pas qu'il y ait des fusions de sang. On va renverser cette dictature salazariste. Et puis après, on organisera des élections. Et en fait, les habitants et habitantes n'ont pas respecté ce mot d'ordre et sont sortis avec les militaires en ville, et notamment au marché aux fleurs de la ville. Et le marché aux fleurs où il y avait beaucoup d'œillets rouges à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après, elle a été appelée la révolution des œillets. Eh ben, on va bientôt écouter la météo, mais juste avant, on peut peut-être s'écouter cette chanson de Grandola Villa Morena, qui sera suivie donc par la météo d'hier, transmise par Légumane. Et on le remercie.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
À sombra do mazinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade,
jurei ter por companheira a sombra do mazinheira que já não sabia a idade.
Du chaud et froid, du chaud et froid. La météo.
Eh bien, bonjour. Encore une journée merveilleuse. Après les timides intempéries de ce week-end, de la pluie s'est faite moins discrète aujourd'hui et devrait continuer cette semaine. Un débit, ou devrais-je dire un flow, qui rivalise avec celui des conneries émises jour après jour du corps politique et policier, qui ferait sans doute mieux de prendre congé, comme l'a fait le soleil. À vrai dire, le soleil reviendra, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour sûr, on a bien besoin de lui. En revanche, s'il pouvait continuer à flotter jusqu'à ce que se noie cet état fascisant, nous serions nombreux et nombreuses à l'apprécier, le retour du soleil.
Hello, on a essayé de capter des rires discrètement. Ça a marché ou pas? Non, du coup, ça c'était un enregistrement de Fica en Casa. C'est ça? Du coup, en portugais, restez chez vous. Mais
c'est actuel.
C'est le rester c'est ce chez vous actuel, ouais. On n'a pas entendu très bien.
On l'entendra mieux demain.
Ce serait un camion qui tourne, a priori, dans. Dans pas mal d'endroits, un camion qui tourne dans pas mal d'endroits au Portugal pour continuer à annoncer en permanence aux gens de rester chez eux. Quoi.
Voilà. Mais le thème d'aujourd'hui, c'était pas le Portugal.
Non, je crois pas. Là.
On nous le présenter, non?
On avait dit qu'on présentait pas de thème.
Ah, on présente pas de thème.
Une petite introduction qui vaut bien thème.
Bon,
moi aussi,
intro.
Je t'aime.
Obscur vivant napalmisé indécis, oubliant violent nitrate ingéré, obésité vasculaire née intramuros, objectivant vacuité nihiliste irraisonnée, obscurci vers nos idéaux, ombragé versus nappage indigeste, oxyde vermoulu naviguant in vitro, octuplé volontaire né imbibé, océan vidé nourricier irascible, octopus vitrifié négation impromptue, Olympe, Vénus, névrosée immortelle, ovipare, vous nous imposez, occlusion vénale, nacrée interdite. OVNI. Où vas-tu, nature irradiée? Où vit Nabab imbu? Où vient naître immigré? Ouvris nos images, où vacille naufragés irréels? Ô VENI, ni haut ni vau, OVNI.
Les ovnis, ces fameux objets volants non identifiés, sont revenus en force. Un peu de partout en France, mais aussi dans le monde entier, on a signalé leur passage et de nouveaux témoignages sont venus s'ajouter, divisant un peu plus les tenants des soucoupes, des anti-soucoupistes. La séparation entre la science et l'irrationnel devient moins précise et parfois même l'imagination l'emporte sur la certitude. Parmi les témoignages recueillis, celui d'un gendarme qui, en 1956, a vu une soucoupe volante. C'était dans la région de Bar-les-Cévennes, au cours d'une patrouille de nuit. Il raconte son observation d'environ 2 minutes, à moins de 100 mètres.
Lorsque nous sommes retournés, nous avons aperçu un engin d'une dizaine de mètres de diamètre, avec des tuyères, environ au nombre de 4, qui se sont refroidies comme un fer rouge qui noircit. Et en même temps, une coupole s'est allumée. Et la coupole pouvait avoir environ 6 mètres de diamètre, d'une hauteur de 80 cm environ, et il y avait 3 ou 4 personnages qui, j'évalue à une hauteur de 1 mètre, 1,20 m, très gros, dont on ne distinguait pas la tête, qui naviguaient devant cette coupole et qui était éclairée d'une couleur mate de l'intérieur. La coupole s'est éteinte, un bruit, un vacarme formidable s'est effectué. Nous avons levé la tête et il est parti, il nous semble qu'il est parti à la verticale. Voyez.
Beaucoup plus fréquents sont les témoignages concernant des ovnis aperçus dans le ciel. Mais souvent, les témoins restent muets par crainte d'être tournés en dérision. Le 11 décembre dernier, deux habitants d'Ouzouer-sur-Loire, près de Gien, roulent en voiture le long de ce champ. Leur attention est attirée par des lumières très vives. Ayant stoppé sur le bas-côté de la route, elles observent alors à environ 30 mètres et pendant 2 à 3 minutes un engin qui se tient en vol stationnaire à une vingtaine de mètres d'altitude. Les deux femmes préviennent rapidement les gendarmes qui se rendent sur les lieux.
Lorsque nous sommes arrivés avec mon collègue, l'engin n'était plus à la même place. Il évoluait à environ de quelques centaines de mètres en direction d'Ouzouer. Ensuite, il a pris une trajectoire en direction de Gien, c'est-à-dire sud-est.
Toujours sans bruit.
Toujours sans bruit.
Une autre habitante d'Ouzouer-sur-Loire a observé le même engin. Elle était sur le pas de sa porte, attendant le retour de son mari.
Tout à coup, j'ai cru qu'il allait atterrir là dans le champ. Et au bout d'un certain moment, il est remonté. Il est passé au-dessus de la maison. Ça m'a dressé les cheveux hein, quand je l'ai vu là au-dessus. C'était monstrueux comme appareil à voir. Et il est passé par là, entre les deux maisons. Il est allé vers la Loire et il est descendu.
Est-ce que ça ressemblait à quelque chose que vous aviez déjà vu, un avion, un hélicoptère?
Oh non, 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 oh là là, c'est pas comparable, non, non.
Nous aurions pu recueillir de très nombreux témoignages identiques à ceux-ci. Ils nous ont paru suffisamment dignes de foi pour refléter une préoccupation en forme de question. Les objets volants non identifiés, est-ce que cela existe?
C'était une vidéo qu'on a trouvée sur le site de l'INA. Voici maintenant les 10 commandements de la DGAC concernant les usages d'un drone de loisir. Premièrement, je ne survole pas les personnes. Deuxièmement, je respecte les hauteurs maximum de vol. Troisièmement, je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l'utilise pas de nuit. Je n'utilise pas mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération. Je n'utilise pas mon drone. J'ai tout envie de dire mon trône. C'est quand même... 4. Je n'utilise pas mon trône au-dessus de l'espace public en agglomération. 5. Je n'utilise pas mon trône à proximité des aérodromes. 6. Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés. 7. Je ne respecte pas la vie privée des autres. 8. Je ne diffuse pas mes prises de vue sans l'accord des personnes concernées et je n'en fais pas une utilisation commerciale. 9. Je vérifie pour quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité. 10. En cas de doute, je me renseigne. Hier, une de mes amies de jeu, ici dans le studio, me posait la question au sujet des noms de drones. Quels étaient les noms des drones? J'ai cherché, et l'élu de mon cœur, c'est ce nom-là, c'est le projet Paparazzi. Voilà, 3 petits points. Mais après, le plus connu, sinon, reste quand même le drone américain MQ-1 Predator. Je rappelle qu'un prédateur est un organisme vivant qui tue des proies pour s'en nourrir ou en alimenter sa progéniture. Maintenant, un petit slogan sur un t-shirt à la gloire du drone prédateur. Le voici. Vous pouvez toujours courir, mais vous mourrez fatigué. Voilà. 3 petits points. Oui, c'est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Alors maintenant, un drone est destiné à une évolution dans un environnement 3D. En anglais, dull, dirty and dangerous, ce qui signifie monotone, sale et dangereux, donc inadapté aux pilotes humains. Si maintenant, trois petits points. Je vais vous lire donc un extrait de La théorie du drone, un livre de Grégoire Chamaillou, et d'abord, qui est paru en 2016 aux éditions La Fabrique. Et je vais commencer par une offre d'emploi. Celle-ci aussi est vraie. Donc c'est « Principe théorique de la chasse à l'homme, offre d'emploi ». Analyste pour programme de chasse à l'homme au sein des opérations spéciales. Profil du poste, œuvrer au développement d'une formation innovante pour les opérateurs de chasse à l'homme. Prérequis, niveau licence dans une discipline associée, habilitation de niveau secret et se qualifier pour le niveau top secret. Petite annonce publiée par le contracteur militaire SAIC en 2006. Donc je pense que c'est trop tard si ça intéresse des gens. Voilà, et maintenant je vous propose une petite musique.
Playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là?
Et leurs maris disent de moi,
complètement coquet ce mec-là, complètement gaga. Il a une grosse tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars, elle est drôlement bizarre.
Ce n'est pas ma faute à moi si les femmes mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissants, mais je crois que ce qu'elles préfèrent c'est mon petit ventre rond.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là?
Et leurs maris disent de moi,
complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une grosse tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole les gars, elle est drôlement.
Vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau. Je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Je me garde n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là?
Et les gens disent de moi,
complètement coqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une grosse tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole les gars, elle est drôlement bizarre.
Voyant que sur cette terre tout n'était que vice, et que pour faire des affaires je manquais de malice, je montais dans mon engin interplanétaire et je ne remis jamais les pieds sur la terre.
Ce qui fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là?
Et les hommes disent de moi,
complètement coqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une grosse tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a?
Et les gens disent de moi,
et puis sa bagnole les gars, elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a, c'est celui-là. Il a un bon accent, ce gars-là. Il a une bonne voix.
Et les amis, je te vois.
On va se faire.
Et les gens disent de moi,
il a une bonne tête,
Alors, on nous signale, des paires d'oreilles attentives nous ont signalé au 07 53 15 33 68 qu'il y avait une petite erreur dans la description des 10 commandements de la Direction Générale de l'Aviation Civile, enfin plutôt dans la lecture, parce que peut-être que tu peux corriger, Sly.
Qu'ai-je dit ?
L'amendement 7, tu as dit qu'il ne fallait pas respecter la vie privée des autres.
Ah, c'est comme le coup du trône, je m'excuse, en fait, le volume 7 est censé respecter la vie des autres. Bien sûr, on doit respecter la vie des autres avec son drone. C'est impératif.
Merci pour cette rectification.
Je m'excuse, ma langue fourchée. Je vais continuer maintenant dans le livre de Grégoire Chamaillou, La théorie du drone, par le paragraphe 4 qui s'appelle « Surveiller et anéantir ». Donc, petite citation d'abord. « C'est un peu comme avoir Dieu au-dessus de la tête et la foudre s'abat sous la forme d'un missile Hellfire. » C'est le colonel Théodore Ossowski. Sinon, « En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite, vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. » Ça, c'est Gérard de Nerval.
Ne cherchez pas la contre-pétrine.
Je commence. L'œil de Dieu embrasse de son regard surplombant la totalité du monde. Sa vision est plus qu'une vision. Elle peut sonder sous la peau des phénomènes les reins et les cœurs. Rien ne lui est opaque. Parce qu'elle est éternité, elle embrasse tout le temps, passé comme futur. Son savoir, enfin, n'est pas un savoir. À l'omniscience correspond l'omnipotence. À bien des égards, le drone rêve de réaliser par la technologie un petit équivalent de cette fiction de l'œil de Dieu. Comme l'écrit un militaire, en utilisant l'œil qui voit tout, vous pouvez découvrir qui est important dans un réseau, où ils vivent, qui les soutient, qui sont leurs amis. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre, jusqu'à ce que les gens s'avancent sur un tronçon de route isolé pour les éliminer avec un missile Hellfire. Les promoteurs des drones insistent sur ce point. Ces engins ont révolutionné notre capacité à poser un regard constant sur l'ennemi. Là résiderait l'apport fondamental, une révolution dans le regard. En quoi ? On peut regrouper ces innovations sous plusieurs grands principes. Premièrement, principe de regard persistant ou de veille permanente, qui est donc l'émancipé des contraintes que posait jadis à l'avion le corps de son pilote. Le drone peut rester en l'air très longtemps, son regard peut demeurer constant 24 heures sur 24. L'œil mécanique n'a pas de paupières. Pendant que l'engin patrouille, les opérateurs au sol font les 3-8 face à l'écran. La délocalisation des équipages hors de leur cockpit a permis une profonde réorganisation du travail. Et c'est en réalité cela, au-delà des prouesses technologiques de la machine, qui assure, par effet de démultiplication socialisée des pupilles humaines, la veille géospatiale constante du regard institutionnel. Deuxièmement, principe de totalisation des perspectives ou de vues synoptiques. Le second grand principe adjoint à la persistance du regard, sa totalisation. C'est la notion de surveillance de vaste étendue, wide area surveillance, voir tout, tout le temps. Cette extension du champ de vision est en passe d'être confiée à de nouveaux dispositifs optiques révolutionnaires qui sont encore en phase de développement. Équipé de tels systèmes d'imagerie synoptique, un drone disposerait non plus d'une, mais de dizaines de micro-caméras de haute résolution orientées en tous sens, comme les multiples facettes d'un œil de mouche. Un logiciel agrégerait en temps réel ces différentes images en une seule vue d'ensemble, détaillable à volonté. On obtiendrait l'équivalent d'une image satellitaire de haute résolution, à l'échelle d'une ville ou d'une région entière, mais retransmise en vidéo et en direct. À tout moment, les différentes équipes d'opérateurs pourraient, si elles le désiraient, zoomer sur tel quartier ou sur tel individu. Équipé d'un tel système, un seul appareil en vol stationnaire fournirait l'équivalent des capacités d'un réseau de caméras de vidéosurveillance disséminées à travers une ville entière. Le drone deviendrait omnivoyant. En pratique, cependant, on en est encore très loin. Un rapport militaire juge aujourd'hui le dispositif existant non opérationnel, ni efficace, ni adapté, d'une résolution insuffisante, notamment pour suivre efficacement les personnes et présentant des défaillances préoccupantes dans son système de localisation. Mais ce qui importe pour l'instant est surtout de saisir les principes directeurs de cette rationalité sans rien préjuger de leur effectivité naturelle. Troisièmement, principe d'archivage total ou du film de toutes les vies. La surveillance optique ne se limite pas à la veille en temps réel. Elle se redouble d'une très importante fonction d'enregistrement et d'archivage. L'idée derrière la notion de surveillance persistante, c'est de tourner le film d'une ville entière afin de pouvoir suivre les déplacements de tous les véhicules et de toutes les personnes qui s'y trouvent. Une fois réalisé ce film de toutes les vies et de toutes les choses, on pourrait se le repasser 1000 fois en se focalisant chaque fois sur un personnage différent, zoomant sur lui afin de revoir l'histoire à son échelle. On pourrait choisir des extraits, revenir en arrière, rejouer la scène ou passer en avance rapide. Naviguer à sa guise, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Un événement ayant eu lieu, on pourrait remonter en arrière pour en retracer sa généalogie. Si une ville entière pouvait être surveillée à la fois, les voitures piégées pourraient être retracées jusqu'à leur point d'origine, par exemple. L'archive totale assurerait par avance, sur un mode provisionnel, la traçabilité rétrospective de tous les itinéraires et de toutes les genèses. Cela supposerait cependant des capacités de stockage, d'indexation et d'analyse que les systèmes actuels ne possèdent pas. La presse rapporte que durant la seule année 2009, les drones américains ont généré l'équivalent de 24 années d'enregistrement vidéo. Et le nouveau système Argus IS promet de générer plusieurs terabits de données par minute, soit 100 fois plus que les capteurs de la génération précédente. Mais là est bien le problème, celui devenu omniprésent du data overload. D'une surcharge ou d'une avalanche de données qui finit par rendre l'information, par profusion, inexploitable. Afin de remédier à ce problème, le Pentagone va au stade. Le football américain, spectacle télévisé par excellence, constitue un champ d'innovation avancé dans le domaine du traitement vidéo. À chaque match, des dizaines de caméras filment les joueurs sous toutes les coutures. Chaque séance est instantanément indexée dans une base de données. Grâce à un logiciel performant, le réalisateur peut, en même temps que les statistiques s'affichent à l'écran, rejouer n'importe quelle action de n'importe quel match sous différents angles. Comme l'explique Larry James, qui dirige la branche renseignement, surveillance et reconnaissance de l'Air Force, en matière de collection et d'analyse des données, les chaînes sportives sont très en avance sur les militaires. L'armée américaine, après avoir envoyé des émissaires dans les studios de la chaîne sportive ESPN, a décidé d'acquérir une vision modifiée du logiciel qu'elle utilise. Après tout, le souci est le même. Les diffuseurs d'événements sportifs veulent collecter et cataloguer des vidéos liées à un joueur spécifique ou un tir gagnant. L'armée veut disposer de la même capacité pour suivre les insurgés. La guerre future, prévenait il y a longtemps Walter Benjamin, présentera, je cite, « un nouveau visage qui abolira définitivement les catégories guerrières au profit des catégories sportives, qui ôtera aux opérations tout caractère militaire et les rangera entièrement dans la logique du record. » J'ai bientôt fini. L'étape technologique suivante serait d'automatiser l'indexation des images. Plutôt que d'avoir à entrer manuellement des tags ou des métadonnées, confier cette tâche fastidieuse à la machine. Mais il faudrait pour cela des logiciels capables de décrire les choses et les actions. C'est-à-dire de traduire automatiquement des agrégats de pixels en noms, verbes et propositions. La DARPA, je ne sais pas ce que c'est, finance des recherches en ce sens, destinées à construire des systèmes cognitifs intégrés pour surveillance automatisée auxquels participent des chercheurs en sciences cognitives. Il faut s'imaginer à terme des machines scribes, des greffiers volants et robotisés qui dresseraient en temps réel le procès-verbal des moindres activités du monde situé en contrebas. Comme si, en parallèle de la vie des hommes, les caméras qui en capturent déjà les images animées se mettaient à en rédiger en même temps le compte-rendu circonstancié. Mais ces lignes de texte, cette chronique méticuleuse de tous les faits et de tous les gestes constitueraient aussi et en même temps autre chose, un grand index, le catalogue informatisé d'une immense vidéothèque où toutes les vies deviendraient, en chacune des scènes volées par la caméra, rétrospectivement cherchable. Quatrièmement, je crois que c'est le dernier, principe de fusion des données. Les drones n'ont pas seulement des yeux, mais aussi des oreilles, non, c'est pas le dernier, mais bien d'autres organes encore. Les drones Predator et Reaper peuvent intercepter des communications électroniques émises par des radios, des téléphones portables ou d'autres appareils de communication. Cinquièmement, principe de schématisation des formes de vie. Cette capacité à visualiser des données provenant de diverses sources combinant le « où », le « quand » et le « qui » dans un tracé en trois dimensions rappelle les diagrammes élaborés par le géographe dans les années 1960. Ce courant très inventif de la géographie humaine se proposait de dessiner des cartes d'un nouveau genre, des graphes spatio-temporels qui donneraient à voir les parcours de vie en trois dimensions avec leurs cycles, leurs itinéraires, mais aussi leurs accidents et leurs dérives. Cruel détournement, ce projet d'une cartographie des vies constitue aujourd'hui l'un des principaux socles épistémiques de la surveillance armée. Le but est de pouvoir suivre plusieurs individus à travers différents réseaux sociaux afin d'établir une forme ou un schéma de vie, pattern of life. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'objectif principal de ces dispositifs de surveillance persistance est moins de prendre en filature des individus déjà connus que de voir émerger des éléments suspects se signalant par leurs comportements anomiques. Parce que ce modèle de renseignement est fondé sur l'activité, c'est-à-dire sur une analyse des conduites plutôt que sur la reconnaissance d'identité nominale. Il prétend pouvoir paradoxalement identifier des individus qui demeurent anonymes, c'est-à-dire les qualifier par la typicité de leur comportement comme relevant d'un profil déterminé. Identification non plus régulière, mais générique. Alors, il reste un sixième. Je propose de faire une pause musicale et de boire de l'eau.